Bonjour à tous. Je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Philippiens. Et nous allons lire dans le chapitre 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Philippiens 1, versets 3 à 7. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Nous savons que Paul est à l'origine de cette église de Philippe. C'était lors d'une vision, comme on peut le lire dans les Actes au chapitre 16, Paul a une vision pour aller en Macédoine, et lui et ses compagnons décident de partir et ils arrivent à la première ville qu'ils trouvent, c'est Philippe, qui est entre autres la première ville du continent européen. Et voilà, la première ville européenne qui est évangélisée par Paul et son équipe. Plus de 10 ans après, Paul est en prison et il écrit cette fameuse lettre aux Philippiens. Paul a été emprisonné à Philippe environ 2 ans. On pense qu'il a été emprisonné de 59 à 61 de notre ère. Mais au travers de cette lettre, Paul exprime toute sa gratitude et toute sa reconnaissance aux Philippiens pour plusieurs choses. Entre autres pour le soutien financier qu'il a reçu au travers d'Épaphrodite, mais aussi il les remercie, il est reconnaissant pour leur intégrité et leur consécration pour le Seigneur et pour leur soutien moral à Paul. Et Paul, d'ailleurs, est en attente d'un procès. Il est en attente d'avoir une réponse de ce procès, de ce jugement. Et il est persuadé qu'il va en être libéré, comme il le dit au verset 25 de ce même chapitre. Il dira « Je suis persuadé et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Il dira aussi au chapitre 2, verset 23 et 24, « J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. » Paul a cette assurance qu'il va être délivré. Il a cette conviction intime. Néanmoins, cette libération sera sa dernière libération puisque le prochain emprisonnement qu'il subira, ce sera sa mort. Alors bien qu'il soit en prison, bien qu'il soit dans des circonstances difficiles, on s'aperçoit tout au long de cette épître aux Philippiens qu'elle respire la sérénité, qu'elle respire la paix. Paul est heureux. On le ressent, il manifeste, il véhicule toute son émotion vis-à-vis des Philippiens. Il dira même « Si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Il saisira même l'occasion au travers de cette lettre, alors qu'il est lui-même dans les difficultés, il saisira l'occasion pour les encourager. Au verset 27 du chapitre 1, il dira « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous, que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Voilà l'apôtre Paul, alors qu'il est dans une situation difficile. Alors dans de telles conditions, comment est-ce que vous et moi aurions réagi? Alors, sans transposer forcément sur sa condition d'être emprisonné, nous pourrions nous poser la question, quand je suis contrarié, quand ça va mal dans ma vie, comment est-ce que moi je réagis? Donnons un petit exemple. Imaginons une mauvaise journée. Vous arriverez facilement à vous imaginer une mauvaise journée. Il est lundi matin, le réveil n'a pas sonné. Dans la précipitation, vous vous levez et vous vous tapez l'orteil contre le coin de la porte. Ça fait mal. La journée commence très mal. Ensuite, vous allez vite manger et vous engloutir pendant que vous habillez votre petit déjeuner. Vous vous rendez compte que vous avez oublié le lait qui est sur le four qui déborde. Bien évidemment, pendant que vous essayez de rattraper la chose, vous croisez votre épouse dans le couloir qui vous fait remarquer, à juste titre, « Mon chéri, tu es en retard ». Alors bien évidemment, vous saisissez l'occasion pour lui dire « Mais c'est de ta faute, c'est toi qui aurais dû me réveiller ». Et bien évidemment, qu'est-ce qui va naître de cette situation? Une dispute qui va faire qu'augmenter votre retard. La journée a très mal commencé, n'est-ce pas? Vous partez, vous allez vite à votre travail. Quand vous arrivez à votre travail, votre patron vous attend, n'est-ce pas, avec le sourire du lundi. Il vous montre la montre, c'est le cas de le dire, et vous fait comprendre très gentiment qu'il va bientôt vous remercier d'être venu. Et quand vous apercevez à midi, au sortir du travail, que votre véhicule n'est plus là, c'est que tout simplement vous avez mal stationné, votre véhicule est allé visiter la fourrière. Alors voilà. Et quand vous avez fini cette journée, quelle est votre attitude? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, de faire? Ça monte haut, n'est-ce pas? Jusque-là. C'est une journée, j'en ai par-dessus la tête. Mais Paul avait tous les sujets, lui aussi, d'être contrarié. Paul était cet homme qui avait ce zèle pour Dieu. C'était cet homme qui voulait faire énormément pour Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui lui arrive? Ben voilà, Seigneur, moi qui suis celui qui veut évangéliser l'Europe entière, je me retrouve emprisonné. Moi qui ai tellement de projets, je suis stoppé là, bloqué. Moi qui, comme j'ai dit dans les actes, j'ai pourvu à mes propres besoins et aux besoins d'autres. Je me retrouve à dépendre des dons d'une église. Comme on le voit, les Philippiens ont pourvu déjà à deux fois aux besoins de Paul. Son ami Épaphrodite, qui est venu lui apporter ce don, et a frôlé la mort. Et un peu plus loin dans le passage, on le verra plus tard, on voit que certains querelleurs, des gens qui veulent faire naître dans le cœur de Paul des afflictions, se sont levés parce qu'ils ont vu que Paul est en situation de faiblesse et ils sont là pour en profiter. Et ça, ça fait mal. Et Paul est dans cette situation. Il a tous les sujets de se plaindre, d'être contrarié. Et pourtant, au verset 2, il est dit que la grâce et la paix soient avec vous. Au verset 5, il dit « Manifestez ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Et vous et moi, après une mauvaise journée, on est capable de dire quoi? Que la grâce et la paix soient avec vous? Comment se fait-il que Paul, dans une telle circonstance, reste serein. Paul reste optimiste. Il est optimiste dans une situation qui est difficile pour lui, qui le contrarie dans ses projets. Et alors, je me suis dit, Paul est un homme qui est optimiste, tout simplement. Mais qu'est-ce que l'optimisme? Alors, j'ai pris le dictionnaire et j'ai ouvert le dictionnaire, le petit Robert, et alors il est dit, de l'optimisme, l'optimisme, tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté en ne considérant pas leur aspect fâcheux. Je vous répète la définition. Tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté en ne considérant pas leur aspect fâcheux. Alors je crois que Paul, dans les versets que nous avons lus, nous donne une leçon pour être optimiste. Parce que le chrétien est optimiste en Jésus-Christ et il a tout lieu de l'être en Christ. Et pourquoi il a tout lieu d'être optimiste en Christ? Et c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous avons lu dans ces versets. C'est que Paul, tout d'abord, ce qui nourrit son optimisme, c'est qu'il va faire un constat, il va faire un bilan de la situation. Il est intéressant de voir au verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Le souvenir. Nous avons tous, chacun de nos vies, tous ceux qui ont connu Jésus-Christ, ont un souvenir. Je me souviens dernièrement d'avoir rangé un peu des vieux classeurs et je suis tombé sur une feuille. Et sur cette feuille, j'avais une date, elle datait de plusieurs années, et j'avais fait une prière que j'avais écrite. Et dans cette prière, j'avais demandé quelque chose au Seigneur. Et là, des années après, le fait de relire cette lettre, ça m'a fait du bien parce que cette lettre a été exaucée. Et je me dis, c'est tellement bon de savoir qu'on a un Dieu qui est vivant. Et alors, c'est bon de se rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que Dieu fait des choses, parce que Dieu est vivant. Et il est impossible de dire, moi je ne peux pas témoigner que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Si tu as Christ dans ta vie, si Christ est rentré dans ton cœur, si tu es devenu un enfant de Dieu, tu ne pourras jamais dire que mon passé ne témoigne pas de la présence de Dieu. Et Paul le dit, je rends grâce pour le souvenir que j'ai de vous. Parce que quel est le souvenir que Paul a eu des Philippiens? Nous ne prendrons pas le temps de le lire en acte 16, mais le souvenir qu'il a eu, c'est de se faire suivre par une femme qui a un démon, un python qui n'arrête pas de le harceler, où il se retourne, il expulse ce démon, et le résultat, il se retrouve en prison. Jusque-là, les souvenirs ne sont pas bons. Mais quel est le résultat de tout cela? Le résultat de tout cela, c'est qu'un Paul va se retrouver avec des portes de prison qui vont être ébranlées, la puissance de Dieu manifestée, et un geôlier qui est impressionné par tout cela et qui va se convertir. Le souvenir qu'a Paul, c'est d'arriver à Philippe. Des fois, quand je lis ce passage, je me dis, mais Seigneur, si seulement ça pouvait m'arriver. J'ai l'impression qu'il arrive à Philippe, il rencontre Lydie, et il lui dit deux phrases, et elle est convertie, quoi. Alors, je me dis, mais Seigneur, mais... Parce que le cœur de Lydie était prêt. Le Seigneur avait déjà fait son travail. Des fois, on pense que c'est nous qui convertissons les gens, n'est-ce pas? Mais c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Ce n'est pas nous. Et Paul est arrivé, et voilà. Et une Lydie qui se convertit. Alors, voilà les souvenirs que Paul a. Souvenez-vous de la définition de l'optimisme, hein? Tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté. Mais oui, parce qu'il faut savoir mesurer les choses. Bien évidemment que Paul aurait pu s'arrêter sur des mauvais souvenirs, comme le fait d'être battu, accusé, mis en prison. Non, il a regardé la grâce de Dieu en action. Et ça, pour lui, c'était un bon souvenir. Quand je suis de nouveau dans la difficulté, je me souviens de mes anciennes difficultés et ce qu'elles ont produit comme fruit derrière. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le reste. Quand la grâce de Dieu se manifeste dans une vie, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est ce que l'homme peut désirer le plus. Au chapitre 3, verset 1, Paul dira, « Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Ce qui est salutaire, ce n'était pas le fait d'aller dans les dérives, comme une église de Corinthe ou comme une église de Galates. Les Galates qui étaient trop légalistes, les Corinthiens qui étaient trop laxistes. Pas du tout. Paul est en train de dire, il faut vivre la grâce de Dieu dans sa vie. Laissez vivre Jésus-Christ. Parce que quand la grâce de Dieu vit, alors on rend des actions de grâce. Il dira aux Corinthiens, « C'est dans une grande affliction de cœur serré avec beaucoup de larmes que je vous écris. » C'est triste de voir la grâce de Dieu anesthésiée par nos vies. Il dira aux Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » C'est triste de voir, de se détourner de ce phare qui vous oriente de la vie. Paul fixe ses regards et dit, je rends grâce du souvenir que j'ai de vous. Et puis il dit au verset 6, cette parole fabuleuse, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé, je suis convaincu, je suis déterminé. Il n'y a pas de doute dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute dans la pensée de Paul. Il reste optimiste en Christ. Pourquoi ? Quand il dit « Je suis persuadé de la, je suis persuadé que celui qui a commencé l'œuvre l'accomplira. » Mais de quelle œuvre parle-t-il ? Il parle tout simplement de la grâce de Dieu, de ce que Dieu a fait dans notre vie pour nous sauver. Supposons que vous ayez un fils. Un jour, vous découvrez que de façon tragique, votre fils a été horriblement assassiné. Après une longue recherche, les enquêteurs trouvent le meurtrier. Vous avez le choix. Utilisez tous les moyens à votre disposition pour le tuer. On appellera cela de la vengeance. Ou bien vous vous attendez à que justice soit faite et que la peine capitale soit donnée. Et on appellera cela une simple justice. Ou alors, vous l'invitez dans votre maison, vous l'adoptez comme votre propre fils, et on parlera alors de grâce. Mais c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Vous étiez ce meurtrier, j'étais ce meurtrier. Et Jésus-Christ n'a pas pratiqué de vengeance, n'a pas pratiqué la justice. Il a pratiqué son amour et sa grâce et il vous a fait, vous et moi, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, son enfant. C'est pour ça que Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé l'œuvre est fidèle et juste pour l'accomplir. Paul a parfaitement réalisé son incapacité, son imperfection devant Dieu. Il a saisi cette grâce par la foi et il sait que Dieu l'a sauvé. Paul sait qu'à l'instant où il a accepté Christ, il est devenu une nouvelle personne. Il a changé d'identité. D'ailleurs, même son nom dans la parole de Dieu a été changé. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie expérimenteront aussi cela. Parce que une fois que vous acceptez Christ dans votre vie, il y a une part de Dieu qui est en vous. Le Saint-Esprit. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Et dans Romains, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Mais c'est une merveilleuse assurance que nous avons là. C'est pour cela que Paul peut dire « Je suis persuadé, je suis convaincu, parce que l'œuvre de mon salut ne dépend pas de moi, ne dépend pas de mes résultats, ne dépend pas de ce que je peux faire, mais tout simplement de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu s'accomplira parfaitement. » Dans le chapitre 2, versets 12 et 13, Paul dira « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et oui, cette grâce de Dieu. Imaginez l'illustration que nous avons donnée avant de ce meurtrier qui a été gracié. Une fois gracié, mais quelle est l'attitude qu'il va avoir ? Quelle serait l'attitude, en tout cas logique, qu'il devrait avoir ? C'est de mettre en action la grâce qu'il a reçue, c'est-à-dire une totale reconnaissance et confiance en celui qui l'a gracié. Et c'est ce que dit Paul : mettez en œuvre votre salut, mettez-le en action. Et c'est beau que Paul ait mis tout de suite ce verset après. Il dit, mais c'est Dieu qui vous donne le vouloir et le faire. Même pour cela, vous avez besoin de Dieu. Ça me fait penser à l'histoire de la multiplication des pains. On voit cette situation dans les évangiles, hein, dans l'évangile de Matthieu, où il y a multitude qui est là, ils ont entendu la parole de Dieu, et puis à un moment, les disciples de Jésus veulent renvoyer la foule, n'est-ce pas? Et Jésus leur dit, mais donnez-leur à manger. Oui, mais nous n'avons que 2 poissons et 5 pains, Seigneur. Nous n'avons que 2 poissons et 5 pains. Mais est-ce que tu es un peu réaliste? Et nous, on est des fois comme cela, dans des situations qui sont difficiles et tout, au lieu de dire comme Paul, je suis persuadé que le Seigneur sait toutes choses, tout est en sa main. Est-ce que Dieu est dépassé par les événements? Est-ce que Dieu n'arrive plus à gérer son planning? Il a oublié son agenda? Est-ce que les cheveux de votre tête ne sont plus comptés? C'est pas ce que dit le Seigneur. Est-ce que la main de Dieu est trop courte? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il répond aux disciples? Donnez-leur vous-même à manger. Il prend ses 2 poissons, ses 5 pains, et il les multiplie. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas multiplié de rien. Il a multiplié à partir d'un quelque chose qui ne représente évidemment rien. De ce rien, de ces 2 poissons, de ces 5 pains, le Seigneur a fait le miracle. Et de ta faiblesse, de ta petitesse, le Seigneur multipliera. Le Seigneur te demande ton rien. Tu n'es rien, tu ne peux rien, tu es faible, tu es une larve. Mais le Seigneur te demande, mets-moi sur le panier ces 2 poissons et ces 5 pains. Et c'est moi qui ferai la suite. Notre rien est pour nous un tout, mais ce tout, le Seigneur le demande. Et c'est à partir de là qu'il va faire des choses merveilleuses. Et Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé l'œuvre est fidèle et juste pour l'accomplir. Dans une telle situation que Paul vivait, emprisonné, bloqué dans son ministère, il se dit, Seigneur, c'est en toi que je me confie. Alors, toi et moi, dans les journées difficiles, ou peut-être dans des moments difficiles, quand tu passes dans la maladie, quand tu passes dans l'épreuve, quand tu te prends tuile sur tuile sur tuile, épreuve sur épreuve sur épreuve, quand tu ne fais que additionner et tu te dis, mais Seigneur, c'est quand que tu soustrais? Je crois qu'il faut regarder au Seigneur et se dire, comme Paul a dit, il y a une chose que je suis convaincu, c'est que c'est Christ qui accomplit son œuvre dans ma vie. Et c'est lui qui est roi, c'est lui qui est souverain. Dans le psaume 33, verset 4, il est dit, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et dans Timothée, il est dit, il demeure fidèle, même si nous sommes infidèles. Nous pourrions résumer aussi le chapitre 6 de Matthieu par ces mots simples, ne vous inquiétez de rien. Quelles auraient été les phrases qui nous auraient le plus encouragés? Je crois qu'il n'aurait pas pu l'exprimer autrement. Alors, dans les difficultés, ce n'est pas évident, mais je crois que tourner les regards vers le Seigneur et se dire, Seigneur, je sais que tu as fait ton œuvre dans ma vie. Combien ça fait du bien de se le rappeler et d'être convaincu d'une telle vérité. Paul dira au verset 5, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et au verset 7, la deuxième partie dira, vous avez tous été participants de la grâce avec moi. Et Paul souligne aussi cet aspect-là, parce que Pour Paul, il y a une chose qui est essentielle dans sa vie. C'est servir Jésus-Christ. Voilà le but de sa vie. Voilà le thème qu'il met au-dessus de son existence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fonction de l'objectif qu'on se fixe, c'est à partir de là qu'on aura les contrariétés. Si maintenant je décide de venir, j'ai rendez-vous à 14h, je me suis fixé cet objectif-là, si des contrariétés viennent m'empêcher d'arriver à 14h, hein, des événements vont arriver pour m'empêcher d'arriver à cet objectif-là, c'est là que je vais être contrarié. On est toujours contrarié par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Si mes objectifs sont Christ, eh bien, tout ce qui va venir contre Christ, c'est ça qui va me contrarier. Mais si mes objectifs ne sont pas Christ, ce qui va me contrarier, ce n'est pas le fait qu'il y ait des obstacles contre l'Évangile. Mais Paul se réjouit de la part que les Philippiens prennent pour l'Évangile, parce que tout simplement, il voit qu'eux aussi, à leur niveau, ont le même objectif que lui. Et combien c'est rassurant de voir ses frères et ses sœurs, je vais dire le mot, dans la même galère. Mais cette galère, elle va vers le ciel. C'est ça qui est intéressant. Paul dira dans les Actes, au verset 20-24, « Je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Philippiens 2, verset 21, « Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Paul se réjouit de voir ses frères et ses sœurs qui cherchent le même intérêt que lui, Jésus-Christ. Alors, le chrétien est optimiste, comme on l'a dit, quand il se souvient de ce que Jésus a déjà fait dans sa vie. Il est convaincu de ce que le Seigneur va faire, à commencer et accomplir dans le futur. Mais il se réjouit et c'est une source de joie pour lui aussi, de savoir qu'il n'est pas le seul. J'ai mes frères et sœurs qui sont aussi avec moi dans le même combat. Ne dit-on pas ce proverbe, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Je ne sais pas pour vous, mais moi je désire la gloire de Dieu. Un jour être face à face de mon Sauveur et avoir la gloire de Dieu. Être au milieu de tous ceux qui ont combattu avec moi. Et oui, il faut croire que souffrir pour Christ, c'est une grâce. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 20, il est dit « En effet, de quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Alors c'est un verset qui est pas évident. Une grâce devant Dieu, quand au nom de Jésus-Christ, nous supportons. Et c'est indispensable d'avoir nos regards fixés sur Christ pour pouvoir passer le cap. Mais Christ est avec nous, il nous l'a promis. Alors si vous voulez être optimiste comme Paul, je ne vous dirai tout simplement que ces trois choses. Paul a su se souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Paul a été convaincu, il a dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé l'œuvre est fidèle et juste, et ce n'est non pas sur moi que repose le résultat, c'est en Jésus-Christ. » Et puis, il se réjouit de la part qu'ont ses frères et sœurs à l'Évangile avec lui, cette bonne part. La lettre de Paul a eu ce nom de l'épître de la joie. Et je crois que c'est un nom qui lui a été bien donné. On voit tout au long de cette épître les bonnes choses comparées aux choses moindres. L'emprisonnement de Paul a été une bénédiction. Quelque chose de meilleur que la liberté. Il le dira au verset 12 et 14. « Nul n'ignore dans tout le prétoire que c'est pour l'Évangile que j'ai été emprisonné. » Il dira au verset 21-23, partir et être avec Christ est meilleur que de rester sur terre. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Il dira, croire en Christ, c'est bien, mais souffrir pour lui, c'est encore mieux. Versets 29 et 30. Courir, c'est bien, mais achever la course, c'est mieux. Chapitre 2, versets 16 et 18. Tout est beau à la connaissance de Jésus-Christ. Chapitre 3, versets 4 et 8. Notre corps est humilié, mais il sera glorifié. Chapitre 3, verset 21. Chapitre 4, verset 1. Au milieu de l'humiliation, de la disette, de la détresse, le Christ est notre force et notre richesse. Chapitre 4, verset 11, 14. Et pour finir, Paul dira, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Chapitre 4, verset 19. Les regards de Dieu, de son amour, ne disparaissent jamais, pas même derrière des apparences temporelles qui semblent indiquer le contraire. Comment percevoir le bon côté des choses dans les circonstances fâcheuses? Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Sois convaincu qu'il accomplira l'œuvre et réjouis-toi de ta contribution à l'Évangile. On est pessimiste par le raisonnement humain, mais on devient optimiste par la foi en Jésus-Christ.